Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek effectue une visite à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger. Le Sénat tchèque serait favorable, selon son président, à la construction d'une base antimissile en République tchèque. La République tchèque augmentera son aide aux pays pauvres. Premier séjour à l'étranger du nouveau chef du gouvernement tchèque, Mirek Topolánek. Il l'a conduit ce mercredi en Slovaquie. Le renforcement des relations privilégiées entre Prague et Bratislava étant, selon le Premier ministre, au cœur de cette visite. Au menu de ses entretiens avec son homologue slovaque, Robert Fico, la sécurité énergétique ainsi que d'autres thèmes européens. Dimanche prochain, Mirek Topolánek se rendra en Finlande au sommet Asie-Europe. Le Sénat tchèque serait favorable à une éventuelle construction d'une base antimissile américaine sur le territoire tchèque. Le président de la Chambre haute du Parlement, Přemysl Sobotka, du Parti civique démocrate, ODS, l'a déclaré lors de son entretien mercredi avec l'ambassadeur sortant des États-Unis en République tchèque, William Cabanis. Jeudi, les opposants à ce projet de l'initiative non à des bases militaires organiseront une protestation au centre de Prague, place de la Vieille Ville. En 2006, la République tchèque augmentera d'environ 3 millions d'euros son aide au développement pour les pays pauvres. Le volume de cette aide publique, destinée par exemple à l'Angola, à la Bosnie-Herzégovine, au Yémen ou au Vietnam, atteindra cette année quelque 3,3 milliards de couronnes, soit environ 0,11% du PIB. C'est le tout premier concert de Madonna en République tchèque, ce mercredi soir à Prague, qui est à la une de l'actualité culturelle. Mercredi et jeudi, la star présente son nouveau show, The Confessions Tour, devant la salle comble du palais Omnisport de Saska Arena. Début également d'un festival du théâtre japonais qui commence ce soir au théâtre pragois Arha, par un spectacle de la compagnie de danse de Kyoto, Monochrome Circus. En sport, après sa victoire 2-1 obtenue contre le Pays de Galles samedi dernier, l'équipe de République tchèque de football affronte la Slovaquie ce mercredi soir à Bratislava pour sa deuxième rencontre éliminatoire au championnat d'Europe 2008, un derby très attendu par les supporters des deux côtés de la frontière. Parmi ces derniers, on trouve le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek ainsi que son prédécesseur Jiří Paroubek qui assistent tous les deux à la rencontre. Les deux équipes s'affrontent en match officiel pour la troisième fois depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993. Côté météo, ce mercredi, nous avons profité d'une très belle journée ensoleillée avec les températures proches des 27 degrés. Jeudi, le ciel sera dégagé et le thermomètre grimpera jusqu'à 30 degrés. Jeudi, nous fêterons les Regina en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Le nouveau chef de la diplomatie tchèque, Alexander Vondra, a présenté sa vision de la politique étrangère nationale. Nous en présenterons les grandes lignes. Des anatomes de plusieurs pays européens se sont donné rendez-vous à Prague pour discuter de certains problèmes très spécifiques. Nous allons céder la parole à l'un des participants à leur congrès. Un grand succès de la police tchèque, elle a démantelé un gang de proxénètes, un gang dangereux et puissant. Nous ne manquerons pas de vous en offrir quelques détails. La chanteuse populaire tchèque Hana Zagorova souffle ce mercredi ses 60 bougies, une occasion de vous faire écouter l'un de ses grands succès. Et pour terminer, une information sur le funiculaire historique de Prague, menant sur la colline de Petchin, aimé des Pragois et apprécié par les touristes étrangers. Tradition oblige, le premier voyage à l'étranger a conduit le nouveau chef de la diplomatie tchèque Alexander Vondra en Slovaquie. Encore avant son installation officielle au palais Tchernin, siège du ministère des Affaires étrangères, il a participé à Bratislava à une rencontre de ses homologues des pays du groupe de Visegrad, réunissant la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie. Ce mercredi, il a présenté à l'Assemblée des diplomates les priorités de la nouvelle politique étrangère tchèque. Václav Richter.
Le ministre a défini d'abord trois principes fondamentaux de la politique étrangère, la continuité, le réalisme et la fidélité à l'orientation qui caractérisent cette politique depuis la révolution de 1989.
Jaká bude zahraniční politika? Bude jiná? Bude
se odehrávat nějaká... Comment sera la politique étrangère? Sera-t-elle différente? Y aura-t-il un changement révolutionnaire? La réponse est non. La République tchèque est un État moyen qui ne peut pas se permettre des changements extrêmes, des manœuvres imprévisibles. Un État qui n'agit pas isolément sur la scène européenne, mais en accord et en coopération avec nos alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Nos activités doivent être prévisibles et tout le monde doit savoir ce qu'on peut attendre de nous. Un de nos principes fondamentaux est donc la continuité de la politique étrangère tchèque.
Et le ministre de souligner que ce sera aussi une politique réaliste et consciente de ses possibilités, qui reposera sur trois piliers fondamentaux, l'Union européenne, l'OTAN et la coopération avec les pays voisins. Dans les rapports vis-à-vis de l'Union européenne, la diplomatie tchèque insistera sur les objectifs principaux pour lesquels l'Union a été créée, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Elle encouragera les tendances à la transparence et la flexibilité des organismes de l'Union et s'opposera à toutes les tentatives de retarder l'intégration de la République tchèque dans l'espace Schengen qui doit avoir lieu en octobre 2007. La diplomatie tchèque cherchera aussi à contribuer au débat sur la Constitution européenne et à la réflexion sur l'identité européenne.
Nous espérons que cette réflexion et une certaine crise de l'identité européenne n'auront pas pour conséquence la fermeture de l'Union vis-à-vis de nouveaux adeptes de l'intégration. Nous sommes et nous serons pour une Union européenne ouverte qui sera prête à recevoir de nouveaux pays membres et surtout ceux de la péninsule balkanique.
Selon Alexander Vondra, la Tchéquie doit se préparer aussi à la période pendant laquelle elle assurera, en 2009, la présidence de l'Union. Ces préparatifs doivent concerner, selon le chef de la diplomatie, non seulement les problèmes techniques d'une telle tâche, mais aussi les priorités sur lesquelles la République tchèque mettra l'accent pendant cette période. Réagissant à la polémique sur une éventuelle installation d'une base antimissile américaine en République tchèque, le ministre s'est exprimé sur l'engagement de la Tchéquie dans le système de la sécurité européenne. À son avis, la Tchéquie doit assumer sa part de responsabilité dans la protection contre les risques qu'apportent le développement et l'extension de nouvelles technologies militaires. La Tchéquie pourrait donc, selon Alexander Vondra, partager ses responsabilités avec la Pologne, qui elle aussi figure parmi les pays où l'installation de tels systèmes est envisagée par les États-Unis. La République tchèque poursuivra également son engagement dans les forces de paix au sein des principaux foyers de tension dans le monde.
Morphologie 2006, voilà le titre du 43e congrès anatomique international qui s'est tenu du 3 au 6 septembre à Prague, en présence de 180 savants tchèques et slovaques et leurs collègues venus d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Japon. Jarka Gisiblova s'y est rendue.
Les thèmes du congrès ont été choisis en accord avec les nouvelles tendances dans les recherches qui contribuent à répondre à la question essentielle « Pourquoi certaines cellules échappent au contrôle et se transforment en cellules tumorales ?» Le professeur Miloš Grim, président de la Société anatomique tchèque, précise.
La problématique principale abordée concerne les cellules souches et la gestion des stades embryonnaires de l'évolution. On a étudié les mécanismes qui dirigent l'évolution des vaisseaux sanguins de l'embryon et on est arrivé à la conclusion que pendant cette évolution, il y a une certaine pénurie dans l'approvisionnement des tissus en oxygène et les cellules qui y sont exposées activent des systèmes qui permettent de s'y adapter. Le tissu est ainsi contraint de réguler le degré d'approvisionnement. Ce mécanisme embryonnaire a des parallèles dans l'organisme adulte et aussi lors de l'apparition des tumeurs. La connaissance de ce mécanisme permet de réguler l'approvisionnement de la tumeur en oxygène et donc aussi de limiter sa croissance. Toute une section à ce congrès est consacrée aux nouvelles tendances dans l'oncologie.
De ces nouvelles tendances, le docteur Karel Smetana, secrétaire scientifique de la Société anatomique tchèque et de la Société pour la histo- et la cytochimie, nous en dira plus.
Tato část se týká zejména nového pohledu na to, jak vlastně zubní nádor vzniká, protože v současné...
Il s'agit d'une vue nouvelle sur la naissance d'une tumeur maligne. Aujourd'hui, il est clair que ce sont les cellules souches qui, après avoir subi des changements génétiques, se trouvent à l'origine d'une tumeur. Nous étudions justement le rapport entre les cellules tumorales et le stroma d'une tumeur, car tout porte à croire que le stroma, qui est le tissu constituant la charpente d'une tumeur cancéreuse, peut influencer d'une façon décisive le comportement de la tumeur, y compris le développement des métastases.
Comme nous avons appris encore au congrès, les savants ont déjà mis au point le procédé d'acquisition des cellules souches des tissus adultes, car il est prouvé que des cellules souches sont présentes également dans certains tissus adultes. Il serait donc possible de les prélever sur le corps du patient qui en a besoin pour son propre traitement. La loi tchèque sur les cellules souches, telle qu'elle a été proposée au Parlement, compte parmi les plus libérales au monde. Elle interdit l'utilisation des cellules souches à des fins de clonage, mais elle permet de les utiliser pour remplacer les cellules endommagées.
La brigade de répression du crime organisé vient de mettre fin aux activités d'un gang de proxénètes qui opérait sur le territoire tchèque, mais pratiquait aussi la traite des femmes avec des complices en Norvège. Plus de détails sur un impressionnant coup de filet avec Alain Slivinski.
Les agents de la brigade de répression du crime organisé avaient donné le nom de Kerimo à leur opération contre l'un des plus importants gangs de proxénètes opérant en Tchéquie. Pourquoi ? Parce que les principaux protagonistes étaient issus de familles roms. Kerimo, en langue tzigane, est l'appellation d'un envoûtement conduisant une jeune fille ou femme à tomber amoureuse d'un homme. En l'occurrence, dans le cas présent, cet homme était un proxénète. En effet, les principaux acteurs de l'affaire étaient les membres de quatre familles roms qui organisaient la prostitution sur tout le territoire tchèque, mais aussi en Slovaquie voisine. La police a arrêté, lors d'une opération qui a mobilisé plus d'une centaine de ses membres, 16 personnes. Information concrète par Blanka Kosinova, porte-parole de la brigade de répression du crime organisé.
Ta akce je velkého rozsahu. Za dobu sledování, to znamená zhruba za ten půl rok, máme zadokumentováno zhruba 12.
C'était une opération de grande envergure. Pendant la durée de l'enquête, de la filature des malfaiteurs, donc à peu près 6 mois, nous avons documenté dans les 12 millions de courants de gains pour le gang. Ses membres sont poursuivis pour proxénétisme, trafic d'êtres humains, atteinte à la liberté individuelle, mais aussi viol.
Le gang achetait des jeunes filles de moins de 18 ans directement aux familles roms de Bohême du Nord et du Sud, surtout, éventuellement en Slovaquie. Le prix, 10 000 couronnes, soit environ 300 euros. Elles étaient obligées de se prostituer 7 jours sur 7 par tous les temps, tout d'abord sur les routes tchèques. Elles devaient rapporter de 100 à 200 euros par jour aux proxénètes. Certaines étaient contraintes de travailler sous l'influence de drogues. Celles qui étaient considérées comme les meilleures prenaient sous bonne escorte le chemin de la Norvège, d'Oslo. Elles étaient reprises par des proxénètes arabes pour faire de nouveau le trottoir. Une enquête de longue haleine de la brigade de répression du crime organisé, avec la participation de l'organisation La Strada, qui aide les femmes qui ont réussi à échapper aux proxénètes et désirent reprendre une vie normale. Le coup de filet de la police tchèque s'est d'ailleurs terminé avec succès, grâce à l'aide de plusieurs jeunes filles qui avaient réussi à tromper la vigilance des proxénètes. La police tchèque n'exclut pas d'autres arrestations, car elle continue la surveillance des points chauds de la prostitution sur tout le territoire tchèque.
V reklamách křiklavých neonů a nad tím zastavůně benzínu byster snů včerejších déšť na střechách pojďme dál všude svět diskoték salonů a večer jako tu
« 35 ans de carrière, Hanna Zagorova, l'une des chanteuses tchèques les plus populaires, fête ce mercredi 6 septembre ses 60 ans. Natif de la ville de Ostrava, ville minière située dans le nord de la Moravie, c'est dans les années 60 qu'elle a entamé sa carrière de comédienne et de chanteuse pour la poursuivre avec succès à Prague. Le timbre très particulier de sa voix, une grande musicalité, un physique attrayant et un choix réfléchi du répertoire, autant d'atouts qui n'ont pas tardé à faire d'elle l'une des grandes stars de la pop musique tchèque, l'une de ces stars qui perdure. Plébiscitée par le public à plusieurs reprises, l'interprète féminine la plus populaire, elle a à son compte des dizaines de disques et de CD, le nombre des chansons qu'elle a enregistrées étant estimé à plus de 780. Beaucoup d'entre elles demeurent toujours connues et populaires auprès du public, même très jeunes. À présent, Hana Zagorova chante un peu moins qu'avant, préférant encourager et accompagner son mari, le ténor Stefan Margita, vedette des grandes maisons d'opéra de par le monde. En plus, elle anime des programmes de télévision, écrit des vers. Et gloire oblige, elle a écrit sa propre autobiographie. Écoutons Hana Zagorova et l'un de ses grands succès des années 70. Předměstí je biograf láska, půjdem tam, je biograf láska, patří k nám ty filmy o štěstí. Na mém předměstí je biograf láska, s modrou tmou je biograf láska a v něm jsou jen filmy. Plátnem stříbrným můžem se smát, až zhasnou v sále. Můžeš, co chceš, není to krásné snad, říkat, jak máš mě rád, když si jen vzpomeneš, co já ti můžu víc dát. Večer v nás v košilích džínových spí ještě milování. Čas je čas, vypni už tranzistor, jsme tady zas. Tady jen horký dech země her stínových. Ty nade mnou se skláníš, nemáš svítí jen semafor na přejezdech. Na mém předměstí je biograf láska. Et c'est avec cette chanson de Hana Zagorova que se termine notre programme Les faits et événements en République tchèque. Mais notre programme se poursuit quand même.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Bienvenue à l'écoute, nous poursuivons aujourd'hui le feuilleton consacré à l'histoire des relations tchéco-russes, feuilleton proposé par notre collaborateur Clément Duclos. La partie aujourd'hui est intitulée « Le temps des interrogations entre Moscou et Washington 1945-1948 ». En effet, la situation de l'immédiat après-guerre est exactement à l'opposé de celle que connut la Tchécoslovaquie en 1918. Bien que victorieuse de l'Allemagne nazie, les puissances occidentales sont discréditées par les accords de Munich de 1938, tandis que l'Union soviétique de Staline profite d'un état de grâce sans précédent en raison de la libération de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge. La parole est donc à Clément Duclos.
La réorganisation de la politique étrangère tchécoslovaque sera le reflet des nouveaux rapports de force et d'admiration en Europe centrale et orientale à l'égard de la Russie. Edvard Beneš, ayant pourtant organisé la résistance depuis Londres, revient à Prague avec le goût amer de Munich sur la langue et se tourne, malgré ses idées démocratiques, vers Moscou. D'ailleurs, provisoirement, ce sera l'ancien ambassadeur en URSS, Zdeněk Fierlinger, qui sera président de la République, est recouvré. Le Parti communiste tchécoslovaque, dirigé par Klemen Gottwald, est naturellement le bras politique de Moscou à Prague. Gottwald et Beneš, bien qu'adversaires politiques et divisés sur le régime politique à installer en Tchécoslovaquie, se rejoignent au moins sur ce point. La Tchécoslovaquie ne peut plus tourner le dos à Moscou. Beneš souhaite à cet effet que son pays soit un pont entre l'Occident et la Russie. Il ne faut pas oublier le poids du Parti communiste tchécoslovaque, rendu très influent par son image, à l'instar du Parti communiste français, de parti libérateur. De plus, le contexte économique catastrophique de l'après-guerre impose une redéfinition du rôle de l'État dans l'économie et pose le problème de la nationalisation des entreprises, dans lequel Moscou souhaite montrer l'exemple. Si Beneš ne souhaite pas imposer le modèle socialiste soviétique à son pays, il admet toutefois qu'il convient de s'en inspirer. Les communistes proches de Moscou profitent quant à eux d'une vague de sympathie à l'égard de la gauche qui se retrouve dans tous les pays d'Europe, y compris en Angleterre. Le poids politique de Moscou est par ailleurs basé sur la réorganisation fondamentale du système des partis politiques tchécoslovaques. Le programme de Košice du 5 avril 1945 impose la liquidation des partis de droite, jugés potentiellement proches du fascisme vaincu, et donne un net avantage aux partis social-démocrates et surtout aux partis communistes. Indirectement, Moscou ignorait par ce système la moitié des citoyens tchécoslovaques qui auraient voté pour un parti de droite, agrarien ou conservateur. En déduire toutefois que la classe politique tchèque dans son intégralité était convaincue du bien fondé d'une alliance totale avec Moscou serait une grave erreur. D'une part, une grande partie des sympathisants du Parti communiste étaient davantage attirés par les slogans nationalistes du parti que par la rhétorique pro-russe et socialiste. Un grand nombre de paysans, notamment, étaient alléchés par la promesse d'une redistribution de leurs terres spoliées par les Allemands et les Hongrois. De plus, l'admiration à l'égard de Moscou ne signifiait pas nécessairement le rejet de Washington et de l'Occident. En effet, Beneš souhaitait également faire profiter son pays de l'aide financière américaine au travers du plan Marshall, indispensable pour entreprendre la reconstruction industrielle de la Tchécoslovaquie, marquée par le pillage nazi. Il envoie le ministre des Affaires étrangères, Jan Masaryk, fils de l'ancien président, demander à Moscou si la Tchécoslovaquie peut accepter le plan Marshall et signer des traités d'alliance avec la France. La réponse de Staline sera aussi ferme que laconique. Niet, non. Masaryk déclarera à son retour « Je suis allé à Moscou comme représentant d'un pays souverain et j'en suis revenu comme laquais de Staline. » La Tchécoslovaquie se trouve en réalité dans une situation politique extrêmement délicate, à mi-chemin entre l'admiration face à l'URSS et l'obligation presque formelle de suivre Moscou et de ne pas prendre d'initiative en matière d'organisation de l'économie ou de politique étrangère. Cette ambiguïté, alliée à l'intransigeance de Moscou, fit que les Tchécoslovaques prirent conscience de la fragilité de leur sort, désormais liée à la volonté de Staline. Celui-ci ne tardera pas à peser de plus en plus sur la scène politique tchécoslovaque, en pressant les communistes d'accélérer leur prise du pouvoir. Investis au plus haut poste de la sûreté, les communistes placent leurs pions à la tête de la police et des milices populaires. En réaction à ces nominations, les ministres non communistes démissionnent le 20 février 1948, croyant que le président Beneš refusera leur démission et organisera des élections anticipées qu'il croyait pouvoir gagner. Mais les communistes présentent à Beneš une liste pour un nouveau gouvernement communiste et Beneš, malade, ne trouve pas la force de refuser. Le 25 janvier 1949, Gottwald annonce la défaite de la réaction sur la place de la vieille ville. Avec l'investiture d'un gouvernement presque exclusivement communiste, Prague lia ainsi son destin à Moscou. Pour légitimer leur prise du pouvoir, les communistes tentent de forcer l'admiration des Tchécoslovaques à l'égard de Moscou et de rapprocher le plus possible ses pays frères. L'apprentissage du russe devient obligatoire à l'école, la propagande glorifie l'alliance de la Tchécoslovaquie à la grande sœur russe. Le 1er mai 1955, la plaine de l'Etna à Prague est flanquée d'une gigantesque statue représentant le communisme, ornée d'un monument à la gloire de Staline, l'ami du peuple tchécoslovaque. La réorganisation de l'économie tchécoslovaque commence alors, au profit de Moscou, puisqu'à travers le Conseil d'aide économique mutuelle, ou Comecon, créé en 1949, l'URSS redirige l'essentiel du produit des démocraties populaires d'Europe centrale et orientale vers elle. La Tchécoslovaquie, durant les premières longues années du communisme, ne s'écarte pas d'un iota de la ligne politique fixée par Moscou. Lorsque la Pologne, lors des grèves de Poznań de 1956, et la Hongrie, avec l'insurrection de Budapest, tentent de critiquer la voie suivie par Moscou, Prague ne bouge pas. Au contraire, elle condamne les déviationnismes polonais et hongrois par fidélité par rapport à Moscou. La répression sanglante de l'insurrection hongroise par l'armée rouge montrera que la petite mère soviétique n'entend pas voir ses enfants fugués. Pendant presque 20 ans, les Tchécoslovaques durent vivre, très souvent malgré eux, dans une allégeance affichée au communisme et à son génial inventeur, le peuple soviétique. Il convient de préciser que si la Tchécoslovaquie, à l'instar de la Pologne, de la Hongrie ou encore de la Bulgarie, est officiellement une démocratie populaire indépendante de Moscou et ne fait pas partie de l'URSS, elle dépend largement de Moscou, sa marge de manœuvre en matière de politique étrangère étant nulle et ses initiatives dans le domaine de l'organisation de l'économie et de la société étant réduites à peau de chagrin.
Fin de cette page d'histoire, fin aussi de cette émission. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.